I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cette femme âgée se tord de douleur. Elle a reçu une balle perdue à la jambe en plein jour dans les rues de Port-au-Prince. Une nouvelle victime collatérale des affrontements que se livrent policiers et gangs criminels dans un climat de terreur.
Un climat de terreur à Haïti, peut-on entendre sur France 24 le 10 mars dernier. Les affrontements entre la police et des gangs ont atteint leur paroxysme dans un pays en déshérence, sans foi ni loi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos.
Depuis la semaine dernière, Port-au-Prince est submergé par les gangs. Ils s'attaquent à la population et aux bâtiments stratégiques. Le week-end dernier, la plus grande prison de la ville a été prise d'assaut. Des milliers de détenus se sont évadés.
Partout, des scènes de chaos. Depuis ce week-end, une grande partie de Port-au-Prince est contrôlée par les groupes armés. Le pays, l'un des plus pauvres au monde, est en proie à l'anarchie. Après les prisons, les gangs attaquent les commissariats, les tribunaux et tous les symboles du pouvoir, poussant les habitants à fuir ou à se terrer. Mais dans la nuit, le premier ministre contesté, Ariel Henry, a démissionné. Mais que se passe-t-il en Haïti ? Bonjour Yves Bourdillon.
Bonjour.
Journaliste au service international des Échos, peut-on parler de chaos et d'anarchie à Haïti ?
Évidemment, le terme est tout à fait adéquat, ça rappelle un peu la Somalie il y a une trentaine d'années, puisque avec la démission dans la nuit dernière du Premier ministre Ariel Henry, dont le mandat d'ailleurs a été terminé depuis février, il n'y a plus aucune autorité légitime dans ce pays. Rendez-vous compte qu'aucune élection n'a pu être organisée, même au niveau des mairies, depuis 2016 quasiment, et les députés sont en fin de mandat depuis 2020, ne siègent plus, la moitié de la Cour suprême ne siège plus non plus, les sénateurs non plus, donc il n'y a plus aucune autorité légitime dans ce pays, c'est un cas unique au monde, donc c'est un total chaos institutionnel et forcément dans ce cas-là sécuritaire, avec les bandes armées qui tiennent en fait une bonne partie du pays, donc c'est une situation sans équivalent au monde aujourd'hui.
Dans la nuit, Ariel Henry, effectivement, a démissionné. Il était coincé depuis quelques jours à Porto Rico. C'est tout le symbole, finalement, de l'impuissance du gouvernement haïtien face à cette situation insurrectionnelle.
Oui, juste quelques éléments. D'abord, ce Premier ministre qui ne pouvait même plus revenir dans son pays et qui, d'ailleurs, avait été nommé dans des circonstances très controversées, deux jours avant l'assassinat mystérieux du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Donc ce Premier ministre ne contrôlait plus rien puisque les quelques 200 bandes armées qui contrôlent l'essentiel du territoire, l'armée est réduite à 500 soldats pour un pays de 12 millions d'habitants, 500 soldats mal payés et qui n'opèrent pas à tel point que d'ailleurs les prisons ont été prises d'assaut par les bandes et vidées de leurs prisonniers. Il y a quelques jours, le port et l'aéroport ne fonctionnent plus, donc avec des risques de famine. Les écoles, les magasins, les administrations publiques sont fermées. Et surtout, depuis des années, les routes peuvent être coupées à tout moment par des gangsters qui rançonnent les gens qui passent et qui pratiquent impunément les kidnappings contre rançon. On en comptait environ 1000 l'an dernier, le racket, et sans compter évidemment les balles perdues qui tuent des milliers d'Haïtiens chaque année.
Qui sont justement ces groupes armés ?
Alors, le plus célèbre est dirigé par un ancien policier qui était très lié au parti de Jovenel Moïse, qui est surnommé Barbecue. On imagine que c'est ainsi qu'il élimine les victimes. Il a participé à plusieurs massacres. Donc, ces quelques 200 bandes comptent des anciens militaires. Ils sont armés jusqu'aux dents et tout simplement, ils vivent du racket de la population, de la terreur. Donc, ils kidnappent n'importe qui, y compris des travailleurs d'ONG étrangères qui, du coup, ne viennent plus. Et les rendent contre rançon. Et puis, ils font payer les gens au passage des routes. Juste un exemple. Ils ont bloqué les centres de distribution de carburant pendant 2 mois, ce qui fait qu'ils pouvaient contrôler le trafic d'essence, dont le prix était de 4 dollars par litre, le plus élevé du monde, dans un pays où le revenu par habitant est d'une centaine de dollars. Dont vous faites le calcul, vous voyez, ce sont des trafiquants et des criminels.
Ouais, et bien armés, hein, selon des experts de l'ONU, selon qui les gangs disposent d'arsenaux de plus en plus sophistiqués, avec une puissance de feu qui dépasse celle de la police.
Ah ben totalement, puisque la police, en plus, vous imaginez bien, dans ce chaos, ne reçoivent plus leur salaire, et à vrai dire, ils ne sont pas motivés pour affronter des gangs aussi armés, avec en plus de l'argent qui vient du trafic de drogue, puisqu'Haïti est sur l'une des routes du trafic de drogue d'Amérique latine vers les États-Unis. D'ailleurs, la plupart de ces dirigeants sont sous sanctions occidentales pour trafic de drogue. Donc, effectivement, ces gangsters sont très armés et font à peu près ce qu'ils veulent. Et alors, au passage, ils habillent en ce moment de revendications politiques leur action, c'est-à-dire qu'ils exigeaient la démission d'Ariel Henry, puisque ce chef de gang qui s'est allié avec d'autres gangs récemment est proche d'un parti de Jovenel Moïse. Mais tout ça, c'est un peu du prétexte, c'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à contrôler le pays et les trafics lucratifs.
Haïti, 3 ans après les Duvaliers. 7 février 86, Jean-Claude Duvalier se réfugie en France sur la Côte d'Azur. Ainsi prend fin une dictature de 30 ans qui s'appuyait sur les fameux tontons macoutes de bien sinistre mémoire. Mais le retour espéré à la démocratie ne s'est pas produit. La constitution est en panne. 4 gouvernements militaires se sont succédés et les tontons macoutes reprennent chaque jour un peu plus de pouvoir.
Les gangs à Haïti, le phénomène n'est pas nouveau, comme on peut l'entendre dans cet archive de l'INA datant de 1989, avec les tontons macoutes, bras armés non étatiques de la famille Duvalier qui régna sur le pays d'une main de fer pendant 30 ans. Au début des années 2000, il y eut aussi les chimères partisans armés du président de l'époque, Jean-Bertrand Aristide, qui ont été jusqu'à mener des raids contre les écoles. Les gangs continuent de semer la terreur à Haïti, avec de nouveaux chefs, dont un certain Barbecue, dont vous parliez, Yves, mais il n'est pas le seul.
Quelques-uns, effectivement, sont importants, mais il faut reconnaître que c'est Barbecue le plus en vue, le plus fort en gueule, on va dire, et qui a l'air d'être le plus puissant actuellement. Donc, il y a une unité des gangs qui est pas forcément bon signe. En même temps, peut-être que paradoxalement, s'il y a un seul interlocuteur, la possibilité, appuyée par la communauté internationale, de mettre en place un comité de transition, peut-être qu'il y aura moyen de négocier au moins un retour au calme. C'est si on est un peu optimiste ou candide.
Les Haïtiens continuent de quitter massivement Port-au-Prince. Impossible de dormir, dit cette dame. Nous fuyons, moi avec mes effets personnels sur la tête, sans savoir où aller.
Le système de santé en Haïti est proche de l'effondrement. Une alerte du bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires. La situation des civils est préoccupante, comme on l'a entendu dans ce reportage de Radio-Canada.
Évidemment, puisque dans ce chaos, non seulement la violence tue, mais aussi la moitié des hôpitaux sont fermés, ne sont plus en état de fonctionner. Comment faites-vous importer des médicaments dans ces conditions? Donc, il y a une situation sanitaire qui est déplorable, avec le choléra même qui sévit. Et puis alors, pour ce qui est de la situation économique, bon ben c'est assez simple, il n'y a pas d'investissement étranger, parce qu'il faut être fou pour investir en Haïti. Donc il y a une petite agriculture vivrière, des exportations de fruits tropicaux, mais les revenus sont extrêmement bas, et avec une inflation qui dépasse les 40%. Et juste pour terminer sur l'aspect sanitaire, on estime que la moitié de la population souffre de malnutrition.
Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a plaidé pour une transition politique urgente, appelant à une réponse internationale face à la crise que traverse Haïti. Mais face à la montée de l'insécurité, les chancelleries étrangères se vident. Plusieurs ambassades, dont celle des États-Unis, ont été en partie évacuées. La communauté internationale semble incapable aujourd'hui de ramener le calme dans le pays.
Oui, ben d'abord parce que la situation sécuritaire est épouvantable. Il faudrait donc un contingent militaire d'ampleur et avec des gens très professionnels rompus à ce genre de mission, ça ne court pas les rues. Et à vrai dire, les deux pays qui pourraient, la France, parce qu'elle a des liens historiques anciens avec ce pays, ou les États-Unis à côté, qui d'ailleurs ont eu une influence très considérable, pourraient intervenir, mais ils ne veulent pas, parce que c'est beaucoup trop dangereux. D'abord, ils sont accusés de néo-impérialisme, et on sait bien que aussi vous arrivez accueillis en sauveur dans ces situations-là, et au bout de quelques semaines, on vous tire dessus parce que s'interposer entre des gangs rivaux, c'est le meilleur moyen de se faire haïr de part et d'autre, et c'est très difficile de s'interposer. Donc la France et les États-Unis ne veulent pas mettre les pieds dans ce foutoir, et la difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui est prêt à le faire, et donc il y a un paradoxe sur lequel on va détaillé, c'est le Kenya qui est prêt à venir. Mais pour l'heure, la seule lueur d'espoir, c'est que la nuit dernière, après la démission du Premier ministre, la communauté des États des Caraïbes ont réussi à trouver une formule, un conseil de transition de 7 membres issus de la société civile, des partis politiques, du secteur privé, qui pourraient prendre le pouvoir et essayer de ramener le calme. Mais il faudrait pour cela qu'il y ait des soldats. Et donc, c'est tablé sur une mission internationale, forcément celle du Kenya.
Oui, le Kenya, c'est quand même assez loin, on va dire, d'Haïti.
Oui, mais paradoxalement, c'est l'atout. Parce que du coup, on ne pourra pas les accuser de néo-impérialisme ou colonialisme. C'est pour ça que l'ONU leur a donné ce mandat. Et le Kenya ne sait pas faire ce genre de mission, mais en même temps, a déjà mené des missions de casque bleu, d'interposition, mais dans des situations où il y avait un cessez-le-feu. Là, c'est plus compliqué, mais ils sont quand même dotés d'une unité très professionnelle qui pourrait peut-être faire le job, sachant que de toute façon, on n'a pas le choix. Les pays occidentaux trouvent que c'est trop dangereux politiquement d'y aller. Donc, ça sera peut-être le Kenya. Le problème étant que ce mandat a été donné il y a 6 mois et qu'il n'y a toujours pas un seul soldat kényan sur le sol haïtien, parce que notamment au Kenya, le Conseil constitutionnel est saisi et il n'y a pas de consensus pour y aller à cause de ces risques.
Nairobi avait proposé de déployer 1000 soldats pour une île de 11 millions d'habitants, île où l'on a dénombré pas moins de 2800 meurtres entre octobre et juin 2023. On peut malheureusement penser que le bilan s'est alourdi ces dernières semaines. La mission s'annonce difficile pour ces soldats de la paix, Yves ?
Évidemment, d'ailleurs, on sait qu'il y a eu une mission, la MINUSTAH, qui s'est achevée en 2017 avec 9000 soldats quand même, qui avaient échoué, puisque notamment eux-mêmes s'étaient livrés à des exactions et n'avaient pas réussi à ramener le calme clairement. Donc il y a un précédent qui rend un peu pessimiste pour ce pauvre pays qui a les indices de développement les parmi les plus bas du monde. C'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine.
Le gouvernement que je dirige ne peut rester insensible à cette situation. Comme je l'ai toujours dit, aucun sacrifice n'est trop grand pour notre patrie, Haïti. Les mots d'Ariel Henry, le discours de démission du Premier ministre, nommé en 2016 par l'ancien président Jovenel Moïse, une démission sous la pression des gangs armés, mais aussi des instances internationales, dont la communauté des Caraïbes. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a promis une aide de 133 millions de dollars supplémentaires des États-Unis, un espoir aussi pour le Conseil de transition appelé à suppléer un exécutif défaillant depuis l'assassinat du président en 2021. Mais quel avenir pour ce pays de 11 millions d'habitants en proie à la violence depuis des années ? Pour en parler, j'ai appelé un écrivain et universitaire haïtien. Bonjour Jean-Marie Théoda.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. D'abord, comment avez-vous accueilli l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry?
Je l'ai accueilli avec un sentiment mélangé, à la fois de joie et d'inquiétude. De joie parce que cela fait 3 ans que M. Ariel Henry a usurpé un pouvoir et qu'il est à la fois incompétent, inactif et peut-être même corrompu. Donc il était temps qu'il s'en aille. Et je pense que je ne suis pas le seul à me réjouir de sa démission, mais par ailleurs beaucoup d'inquiétude parce que il est parti sous l'injonction des bandits armés qui ont l'air d'avoir remporté une victoire.
Vous avez, vous, des contacts réguliers avec la population locale, avec votre famille notamment. Comment ont-ils vécu ces derniers jours et ce climat de violence ?
Ils ont vécu ces derniers jours dans une atmosphère de terreur, dans une atmosphère d'inquiétude et dans une atmosphère je dirais, de carence en tout, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité, pas de médicaments. Vous pensez aux gens qui doivent subir une dialyse, des gens qui sont sous la dépendance de médicaments rares, chers. En fait, il y a un état de siège de fait avant même que le gouvernement ait eu à le déclarer. Et ceci a entraîné la mort lente de la société.
Ce sont vraiment ces gangs armés qui font la loi aujourd'hui à Haïti ?
Je ne dirais pas qu'ils font la loi, parce qu'il faut garder à la loi sa vertu et sa virginité. Ils empêchent la loi de s'appliquer. Ce que l'on appelle la loi de la jungle est un oxymore, en fait. Il n'y a pas de loi dans la jungle. C'est la jungle. Ces gens ont créé le chaos.
Comment en est-on arrivé là ? Comment ces bandes armées ont-elles pu prendre autant d'importance ?
Je pense que les bandes armées ont pu prendre autant d'importance parce que, à partir du moment où les élites corrompues ont accepté de faire main basse sur le pouvoir, c'est-à-dire sur le Parlement, sur la présidence, sur la primature, et que personne aux commandes n'était au-dessus de tout soupçon, les bandits, les vrais, ceux qui sont dans la rue, ont estimé qu'ils avaient aussi leur rôle à jouer sur la scène publique. Donc, dans le fond, entre bandits, entre brigands, il y a eu une sorte d'inversion des rapports à partir du moment où les bandits armés, avec des moyens qui ne sont pas ceux de ces pauvres airs qui vivent dans les bidonvilles. Donc l'argent vient d'ailleurs, les armes viennent d'ailleurs, et nous ne savons toujours pas qui il y a derrière.
Oui, justement, ce sont des bandes armées qui brassent énormément d'argent. Ils profitent notamment du trafic. On sait que Haïti est aussi devenue une plaque tournante pour le trafic de drogue à destination de l'Europe.
À destination surtout des États-Unis, en fait, à destination de la Floride, parce qu'il y a géographiquement une ligne directe entre, on va dire, la cordillère des Andes et les plages de Floride, en passant par Haïti, qui a été transformé en trou noir dans la Caraïbe par les gangs, cette économie souterraine qui vit du trafic d'armes, de drogue et de trafic humain aussi. Plus de 2500 personnes ont été kidnappées et libérées contre rançon, avec à chaque fois barbecue dans le suivi, on va dire, du dossier.
Et barbecue, c'est le nom d'un des gangsters, c'est ça, hein, un des chefs de gang.
C'est le nom du principal chef de gang qui a pris les devants en attaquant le pénitencier national, en attaquant le palais national, en faisant des déclarations tonitruantes, mettant au défi le premier ministre de revenir au pays sans quoi il va commettre un carnage. Et de fait, le carnage, ça fait 3 ans qu'il dure en Haïti.
Le premier ministre est parti sous la pression, hein, effectivement, de ces gangs qui s'en sont pris à Port-au-Prince, la capitale. Est-ce qu'ils peuvent en tirer bénéfice auprès de la population ?
Aucune chance, parce que les gens ne sont pas dupes. Les gens savent quand ils ont affaire à des bandits. En Haïti, il y a quand même une conscience éthique extrêmement forte, extrêmement élevée. Ce n'est pas parce que les gens plient le genou devant des gangsters, devant des bandits, qu'il faut considérer qu'ils sont complices. Au contraire, je pense qu'il y a une population en état de siège qui a été obligée d'accueillir dans son sein des bandits armés parce que, tout simplement, ils n'avaient pas le choix.
Ce que vous dites, ce sont des criminels, hein, pas des révolutionnaires.
Ce sont des criminels, des gens qui ont du sang sur la main, des gens qui ont d'abord servi comme les nervis d'un régime corrompu, qui ont commencé par réprimer des manifestants contre le régime de Jovenel Moïse, dont ils réclament d'ailleurs la filiation et l'héritage. Et c'est dire donc qu'il y a une filiation très claire entre un régime corrompu et des bandits aujourd'hui laissés orphelins par la mort de leur chef, et qui essayent, en fait, de pousser le chaos plus avant, parce que ces gens n'ont pas besoin de prendre le pouvoir. Au contraire, ils prospèrent dans le chaos.
Si Ariel Henry ne démissionne pas, le pays ira les doigts.
Si Ariel Henry ne démissionne pas, le pays ira droit au génocide. Si Ariel Henry ne démissionne pas, si la communauté internationale continue à le soutenir, nous irons directement vers une guerre civile qui va déboucher sur un génocide.
On vient d'entendre sur TV5 Monde Jimmy Cherizier, justement Barbecue, l'un des pires chefs de gang du pays. Il réclamait la démission du Premier ministre. C'est chose faite. La communauté des Caraïbes a annoncé un accord de gouvernance transitoire ouvrant la voie à une transition pacifique du pouvoir, à la continuité de la gouvernance, à un plan d'action à court terme en matière de sécurité et à des élections libres et équitables, un beau programme. Le départ d'Ariel Henry suffira-t-il à sortir le pays du chaos, justement ?
Je pense que le départ d'Ariel Henry est un symbole fort. C'est le signe que l'illégitimité ne paye pas. C'est signe qui n'était soutenu par personne. C'est le signe aussi qu'en Haïti, les gens savent faire la différence entre un pouvoir légitime et un pouvoir qui ne l'est pas. Donc c'est un premier pas dans la bonne direction. Maintenant, je retiens dans le programme édicté par la CARICOM l'idée donc d'une mission d'urgence pour établir la paix. Je pense que c'est le deuxième pas nécessaire. Parce que dans le fond, Ariel Henry et Jimmy Chérizier, ce sont l'envers et l'avers d'une même fausse monnaie. Et maintenant qu'on en a résolu le problème d'Ariel Henry, il faut résoudre aussi le problème Jimmy Chérizier. Et là, ce sera non pas à coup de déclaration non à l'emporte-pièce, mais avec des moyens militaires qu'il faudrait y aller.
Mais justement, qu'attendez-vous aujourd'hui de la communauté internationale ?
J'attends de la communauté internationale, comme disent les Canadiens, qu'ils aient les bottines après avoir eu les babines. C'est-à-dire que les gestes suivent les discours et que cette solidarité internationale manifestée, affichée, se traduise par des actes de solidarité réelle avec le peuple haïtien qui est, je le rappelle, pris collectivement en otage par une bande de brigands.
Mais vous appelez aussi à une solution militaire justement pour faire reculer les gangs et leur faire poser des armes ?
Les gangs ne nous ont pas laissé le choix des armes. Ils attaquent des populations civiles, ils violent des femmes, ils violent des filles, ils se livrent à des actes de torture sur leurs victimes, filment leurs exactions, les partagent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ils ajoutent à l'ignominie, voyez, l'horreur d'un spectacle morbide. Donc c'est contre ça qu'il nous faut lutter. Et je ne pense pas que ce soit avec un rameau d'olivier que l'on pourra rendre la paix civile au Port-au-Princien.
Et justement, qui pourra mener cette bataille contre ces gangs armés ?
Les 10 000 ou à peine policiers que nous avons en Haïti à notre disposition ne peuvent pas faire face à peut-être le double, voire le triple de bandits armés qui circulent dans la région métropolitaine. On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre. Des armes de guerre, ce sont des armes qui sont capables de commettre des dégâts d'une échelle que vous pouvez imaginer. Ce que les policiers que le Kenya s'apprêtait à envoyer en Haïti ne pourraient pas véritablement empêcher. Donc, je pense qu'il faut faire une sorte d'effort intellectuel et considérer qu'Haïti se trouve aujourd'hui dans la situation de l'Espagne pendant la guerre civile, où ce sont tous les patriotes, tous les démocrates, tous les républicains d'Europe et parfois d'Amérique qui se sont engagés pour dire qu'il y avait là des valeurs fondamentales qui étaient en péril et qu'il appartenait à tout intellectuel de prendre parti. Et je pense que quand on pense à l'expérience de Malraux, à tant d'autres, on se dit qu'il faudrait qu'il y ait en Haïti, au-delà même de la Caraïbe, un élan de solidarité pour venir au secours d'un idéal en péril.
Alors l'idéal, hein, ce serait aussi des élections libres et équitables dans les prochaines années, une fois que le calme sera revenu. Mais existe-t-il aussi une société civile ou une alternative politique non corrompue pour offrir un avenir à un nouveau gouvernement en Haïti ?
Bien entendu, et même majoritaire. Moi, j'ai travaillé dans l'administration publique Haïti, dans l'enseignement, et je peux dire que non seulement il y a des gens d'une probité avérée, mais surtout d'une compétence, et qui ont toujours été empêchés d'exercer leur talent. Donc, cette société civile haïtienne, on la voit par le foisonnement d'associations, associations des femmes, associations pour la défense des droits de l'homme, associations des journalistes. Nous avons des associations dans tous les corps de métier, et quand on se réunit, le premier des éléments de l'ordre du jour, c'est toujours la situation en Haïti. Donc, qu'il y ait une société civile, pour ne rien dire de l'Église, des églises qui sont toujours partie prenante des discussions. Donc, la société civile existe, la société éclairée, la société savante haïtienne sont une réalité, mais en revanche, c'est ce que le géographe Roger Brunet appelle l'anti-monde, c'est-à-dire cette économie souterraine, cette économie mafieuse qui, dans un contexte d'État faible, a fini par prendre le dessus et qui occupe le devant de la scène et qui donne d'Haïti l'image caricaturale d'un État totalement chaotique, alors qu'il y a encore des ressorts.
Merci Jean-Marie Théoda, maître de conférences en géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur notamment de Fatra Port-au-Prince. Merci aussi à Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. L'actualité géopolitique, c'est à suivre sur leséchos.fr. abonnez-vous pour rester informé. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.